Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue et c'est pour moi un plaisir d'être là, aux portes de Noël. D'ici quelques jours, nous allons célébrer Noël. Et à Noël, nous célébrons la naissance de celui dont nous avons la vocation de ressembler. Jésus-Christ, parfaitement homme, et parfaitement Dieu. C'est-à-dire que notre Seigneur manifeste non seulement ce qu'est un être humain, mais il révèle également qui est Dieu. En regardant Jésus, nous voyons qui est Dieu et qui est l'être humain selon le projet de Dieu. La création d'Adam et Ève est accompagné par cette phrase qui peut paraître énigmatique. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Tout être humain est créé à l'image de Dieu. Nous sommes porteurs de l'imago Dei, voilà comment on l'appelle. Et cette affirmation sur la nature de l'espèce humaine a engendré une foule de spéculations sur ce qu'est l'image de Dieu en l'homme. Serait-ce la créativité, les relations, sa raison, sa capacité de raisonner, de penser, d'analyser? Est-ce sa capacité à aimer, sa conscience morale? Qu'est-ce donc que cette image de Dieu? Noël en révèle le sens. Elle nous provient de notre ressemblance à Jésus. Chers frères et sœurs, ce n'est pas Jésus qui nous ressemble, mais c'est nous qui lui ressemblons. Jésus-Christ est le modèle à partir duquel nous avons été créés. Nous avons été créés pour ressembler à Jésus. Voilà notre vocation. Voici les circonstances de la naissance de notre Seigneur rapportées dans l'Évangile selon Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela t'arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. La naissance de Jésus intervient dans des circonstances scandaleuses. Et pour comprendre le scandale de cette naissance, nous devons d'abord comprendre ce que signifiaient les fiançailles à l'époque. Au premier siècle, les fiançailles n'étaient pas une simple promesse romantique, mais un engagement juridique et public. Un homme et une femme fiancés étaient déjà considérées comme mari et femme. Pour prendre l'image aujourd'hui, bien que ce soit incomplet, les fiançailles de l'époque représentent le mariage civil actuel et le mariage représente le mariage religieux avec en plus après le fait que l'épouse vient habiter chez son mari. Parce que les fiançailles étaient déjà un engagement juridique, la rupture nécessitait un acte de divorce. Pour rompre des fiançailles, on divorçait. Toute infidélité était assimilée à un adultère, mais le couple n'habitait pas encore ensemble et donc il n'avait pas de relation conjugale. Et cette période des fiançailles durait plus ou moins une année. Lorsque Matthieu écrit « Marie était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient habité ensemble », il souligne précisément ce cadre légal et social dans lequel nos jeunes époux sont. Et c'est dans ce contexte que la grossesse de Marie est un choc absolu. Matthieu nous dit qu'elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ce qui est une révélation pour le lecteur reste un scandale pour le voisinage, les proches et la famille. Aux yeux de tous, il n'y a que deux possibilités. Soit Joseph est le père et le couple a transgressé les règles. Aujourd'hui, on dirait qu'ils étaient un peu pressés. Voilà. Soit Marie a été infidèle ou qu'elle a été violée. Voilà. Dans les deux cas, la situation est honteuse. La loi de Moïse prévoyait des sanctions sévères contre l'adultère, même si à l'époque de Jésus, ces peines n'étaient plus vraiment appliquées. Mais le déshonneur public, lui, était inévitable. Tout le monde constaterait que Marie est tombée enceinte avant d'habiter avec Joseph. On peut déjà se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi des circonstances aussi scandaleuses ? Pourquoi Dieu choisit ce moyen-là, ce plan-là ? Et moi, je vais vous répondre qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix parce que Jésus n'a pas été conçu dans les entrailles de Marie. Avant même la fondation du monde, avant même la création, Jésus est. Jésus a existé de toute éternité. D'ailleurs, nous disons même qu'il est engendré de toute éternité. Et donc Dieu veut que nous soyons sûrs que ce Jésus qui est né il y a quelque peu 2000 ans, c'est bien le Fils de Dieu et qu'il n'a pas été conçu dans les entrailles de Marie, mais qu'il y a été déposé. En somme, Marie est la première mère porteuse de l'histoire. C'est-à-dire que Marie a porté un bébé qui n'est pas le sien, mais qui est celui de Dieu. Deuxièmement, Jésus a besoin d'un Père terrestre. Et bien plus d'un Père terrestre, il a besoin d'être descendant de David. Et donc, pour que Joseph accepte, j'imagine, il fallait qu'il soit d'ores et déjà fiancé, mais pas encore marié, pour être sûr que l'enfant n'est pas de Joseph, mais qu'il est de Dieu. D'ailleurs, Joseph, l'évangile de Matthieu, nous le présente comme un homme juste. Très peu de personnages bibliques sont présentés comme justes. En prophétisant, Ézéchiel nous en cite trois. Il parle de Noé, Daniel et Job. Eux auront la vie sauve à cause de leur justice. Donc Joseph est considéré et ajouté à cette liste d'hommes justes. En effet, lorsque Joseph apprend la grossesse de Marie, il est confronté à une situation humainement incompréhensible. Selon la loi, il aurait pu exposer publiquement Marie, mais Joseph ne cherche ni à se justifier, ni à se venger. Matthieu nous dit qu'il ne voulait pas l'exposer au déshonneur. Sa justice est déjà marquée par la miséricorde. Alors, le texte nous dit que Joseph cherche à rompre secrètement avec Marie. Ici, le terme secrètement, tout le monde aurait remarqué qu'ils n'étaient plus fiancés, tout le monde aurait remarqué que Marie était enceinte. Ici, le secrètement veut dire que Joseph accepte de lui rendre sa dot. Parce que s'il avait dénoncé publiquement Marie, il aurait pu conserver la dot. Mais Joseph, ici, choisit la miséricorde, et bien qu'il ne croit pas trop à cette histoire que Marie lui explique, décide de rompre discrètement, de rendre la dot afin que Marie puisse subvenir à ses besoins ainsi que ceux à ses enfants, voire qu'elle puisse se remarier. Avant l'intervention de l'ange, Joseph révèle un cœur qui préfère déjà la miséricorde plutôt que la condamnation. Lorsque Dieu lui parle en songe, Joseph est placé devant un choix décisif. Obéir à Dieu signifie pour lui prendre Marie chez lui et finaliser le mariage. Reconnaître publiquement l'enfant comme le sien, notamment en le nommant. Et surtout, c'est accepter le soupçon d'une relation prémaritale. En continuant à marier, en poursuivant le mariage avec Marie, les voisins ont dû se dire, ah bah tiens, je t'avais dit, hein, c'est bien Joseph le père. Hein. Donc en obéissant, Joseph accepte que ses proches pensent qu'il est le père, et donc il ruine sa réputation à leurs yeux. Sa justice n'est pas celle de l'apparence, mais celle de l'obéissance, confiante à Dieu, en acceptant de ruiner sa réputation pour une faute qu'il n'a pas commise. Jésus préfigure celui que Dieu l'appelle à adopter. Un juste innocent, prêt à porter le poids d'une faute qu'il n'a pas commise. N'est-ce pas notre Seigneur Jésus ? Dès sa naissance, Jésus est passé sous le signe du malentendu et du soupçon. Il entre dans l'histoire humaine sans défense, dans une situation qui, aux yeux des hommes, est moralement ambiguë. Celui qui est sans péché commence sa vie sous l'ombre d'un scandale. Jésus n'a encore rien dit, rien fait, qu'il est déjà associé à une histoire de transgression. Il grandit dans cette famille marquée par un événement que beaucoup ne comprennent pas, mais que la rumeur et dont une rumeur accompagne toute son enfance. Et on voit notamment plus tard dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean laissera entendre dans la réponse des pharisiens que ce soupçon n'est pas totalement disparu lorsqu'ils lui répondent à Jésus, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Dès Noël, Jésus partage la condition de ceux qui portent une réputation qu'ils n'ont pas méritée. Jésus est celui qui portera la condamnation du péché alors qu'il est innocent. Nous avons toutes et tous été créés à l'image de Dieu. Et à Noël, Dieu nous révèle ce que cette image signifie vraiment. Notre vocation première n'est pas de protéger notre réputation, mais de ressembler à Jésus. Et donc, ne craignons pas la mauvaise réputation, ne craignons pas la honte injuste. Acceptons, à l'exemple de Joseph, d'obéir à Dieu, même lorsque cela nous expose, même lorsque cela nous coûte, même lorsque cela nous fait perdre ce que le monde appelle l'honneur. Acceptons, à la suite de Jésus, de porter avec amour ce qui ne nous appartient pas, afin que d'autres puissent être relevés, guéris, sauvés. Parce qu'en effet, Joseph préfigure cet innocent qui est Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu sans tache ni défaut. Autrement dit, Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, n'a jamais péché. Il n'a commis aucune faute. À aucun moment, il n'a commis d'erreur. Et jusqu'à la fin, il s'est tenu juste, parfaitement juste devant Dieu, et pourtant, il va s'offrir en sacrifice pour des fautes, mais qui ne sont pas les siennes, les nôtres. Recevons donc cette dignité qui ne vient ni du regard des hommes, ni de ce que nous parvenons à préserver, à conserver, à garder, parce que notre dignité nous vient du Christ. Jésus est celui à l'image duquel nous avons été créés. À Noël, Dieu s'est fait chair. Il est entré dans notre histoire par un chemin scandaleux pour nous révéler la justice du royaume. Que ce Noël nous apprenne à contempler Jésus et à lui ressembler un peu plus chaque jour. Amen.